93 vous présente l'émission de sport, l'avant-match. Entrevue, analyse, prévision, 100% sportive. Les coulisses des grandes équipes, les derniers développements, les événements sportifs déterminants. Le sport, scruté à la loupe.
C'est l'émission numéro 1937, un mardi pluvieux du mois de septembre, plutôt tranquille, et bang! Steve Eisenman annonce qu'il quitte le Lightning.
We're going to play this year, and after that, I don't know. In the role I'm in, 100% committed this year, we're going to do everything we can to win as successful a season as possible beyond this year. I don't have an answer for you.
OFM 93. L'avant-match avec Dan Pou.
Il me semble qu'on est encore plus mêlé avec l'extrait qu'on vient d'entendre. Point de presse à 16h aujourd'hui à Tampa Bay, où Steve Eisenman, l'un des hommes de hockey les plus respectés actuellement sur la planète Terre, a annoncé qu'il quittait l'organisation du Lightning. Et dans son explication, il dit qu'il s'en va à Détroit pour passer du temps avec sa famille. Il demeure conseiller parce qu'il restait un an à son contrat. Conseiller, tu peux le faire à distance. Directeur gérant, tu peux pas. Donc, ça va à Détroit. Il dit qu'il va passer du temps avec sa famille. Il garantit au Lightning qu'il va être là jusqu'à la fin de la saison comme conseiller. Mais pour la suite, il n'est pas capable de rien nous dire. Y a-t-il un deal avec les Red Wings? Il y avait des rumeurs, souvenez-vous, l'hiver dernier, que Ken Harlan allait quitter son poste de directeur gérant du Détroit, du club de hockey de Détroit, comme on disait dans les années 50. Finalement, il est resté. Est-ce que Ken Harlan a dit à Steve Eisenman, je fais encore un an puis j'arrête? Est-ce que Steve Eisenman, par respect pour ce que l'organisation du Lightning lui a donné comme pouvoir et comme latitude, est-ce que Steve Eisenman est assez gentleman en sachant qu'il va aller diriger, soit comme président, soit comme directeur général, les Red Wings l'an prochain? Est-il assez gentleman pour quitter un an avant? Il serait-tu senti trop mal de partir le 2 juillet, puis d'arriver à Détroit le 5. Le Lightning de Tampa Bay, en date d'aujourd'hui, c'est la deuxième équipe favorite pour remporter la Coupe Stanley. Les codes sont sortis aujourd'hui. Deuxième équipe favorite. Selon vous, la première équipe favorite, c'est qui? Washington, parce qu'ils viennent de gagner? Non. On me souffle à l'oreille le Canadien. Le Canadien est au sixième rang, mais au sixième rang par en bas. Sixième pire équipe, le Canadien. Il y a trois équipes qui ont moins de chance que le Canadien, parce que le Canadien est à égalité avec un autre groupe d'équipes à 100 contre 1. Les trois équipes qui ont moins de chance que le Canadien de gagner la Coupe, c'est Vancouver, Détroit et Ottawa. Une seule équipe devance Tampa Bay comme équipe aspirante à la Coupe Stanley qui a plus de chances que Tampa Bay en date d'aujourd'hui, c'est les Maple Leafs de Toronto. Et parallèlement à ça, Austin Matthews dit « On a le sentiment qu'on a l'équipe pour aspirer aux grands honneurs aujourd'hui. » Ça a du bon sens. Dans quelques instants, je vais parler avec François Paquette, comme on le fait chaque semaine dans l'avant-match. Plus tard dans l'émission, je vais m'entretenir avec Mathieu Garon, qui vit à Tampa Bay. On va parler de cette démission quand même surprenante de Steve Eisenman aujourd'hui. Et vous savez qui le remplace, c'est pas une grande surprise. Hein? C'est son dauphin. C'est Julien Brisebois. Julien Brisebois, c'est un gars de 41 ans qui vient de la région de Montréal, qui fait partie de ce nouveau groupe de directeur gérant et d'adjoint au directeur gérant qui ont des formations plus plus administrative. Certains sont avocats. Et dans chaque équipe, il y a pas mal un DG comme ça qui est en charge un peu plus de la paperasse, puis aussi des règles. Dans chaque équipe, il y a un gars qui n'est pas nécessairement un ancien joueur de hockey. Et Julien Brisebois a attendu 8 ans avant d'être nommé DG. En juillet 2010, il était adjoint. Il était nommé adjoint de Steve Yzerman. Aujourd'hui, il prend le poste à 41 ans. 41 ans DG d'une équipe de la Ligue nationale. Moi, lui, il fait partie de ce groupe de jeunes avocats qui maîtrisent un peu mieux la convention collective que d'autres. Et c'est rendu ça, c'est rendu très important dans la Ligue nationale maintenant. Moi, je suis directeur gérant de 2 franchises de la Ligue nationale, mais dans des poules à vie. J'ai 48 ans. C'est pas le même cheminement que Julien Brisebois.
L'avant-match. Voici François Paquette.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va bien, Dan, toi-même.
Oui, est-ce que tu t'es remis de l'ouragan Pacioretty?
Ouais, j'ai trouvé ça quand même. Au moins, je préfère, Dan, parler d'une transaction, de quelque chose de concret, que de parler d'une poignée de main puis de ce qui s'était passé au tournoi de golf précédent. Au moins, on avait... On en a eu le cœur net. Je pense qu'on savait tous que le dossier allait être réglé. On savait pas de quelle façon puis à quel moment exactement. Mais on en a parlé un petit peu ensemble hier. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que pour Vegas, c'est un bon coup qu'on a fait. Je pense que le contrat qui est signé est quand même aussi très abordable. Mais je pense que dans les circonstances, le Canadien a aussi bien fait parce que tu avais les mains liées. Tu es allé chercher un espoir de premier plan, un choix de deuxième ronde, puis peut-être un gars qui va relancer sa carrière. Fait que je pense que tout le monde est content, mais je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour le Canadien et comment ça va se transposer sur la glace quand la saison va commencer.
OK, maintenant, j'ai une question pour toi qui concerne les Golden Knights de Las Vegas. Parce que toi, dans ton pont rouge natal, puis moi, aux quatre coins de la région sur les terrains de golf, il y a beaucoup de gens cet été qui m'ont dit « Ouais, Dan, c'était vraiment le fun de suivre Vegas l'année dernière, mais cette année, je suis pas sûr. » « Ah ouais, vous êtes pas sûr de quoi? » Ben, pas sûr qu'ils vont faire les séries. Ah ouais, ils vont peut-être manquer les séries. Il y en a des gens qui ont émis cette hypothèse-là. Et voici ma question concernant Vegas. Est-ce que la transaction d'hier fait passer Vegas d'une équipe en danger à une équipe aspirante à la Coupe?
Peut-être que je montrais juste une coche dans le sens où moi, je pense que Vegas va faire les séries. Mais peut-être pas de façon aussi convaincante qu'il l'aurait fait l'an passé. C'était premier à peu près partout. Personne t'attendait là. Mais moi, je trouvais, à un certain moment donné, que l'absence de James Neal allait se faire sentir énormément. Neal a signé à Calgary, puis je trouvais que ça changeait un peu la donne au niveau des buts que tu vas marquer. Mais l'arrivée et de Pacioretty et de Stachny également, cette équipe-là va marquer des buts, puis je pense pas que ce soit un problème. Moi, je pense que je veux pas dire que la ballonne va se dégonfler, mais je m'attends pas à ce que ce soit aussi éloquent que l'année passée. Il y a toujours une question de première année, de chimie et tout ça. Je pense que l'histoire était fantastique, puis je trouve même que ça s'est terminé de la bonne façon, c'est-à-dire qu'ils rentrent jusqu'au bout, mais qu'ils gagnent pas la coupe. Mais moi, je pense personnellement que les Golden Knights vont faire les séries. Je pense pas qu'ils vont être aussi dominants que l'an passé. Je pense pas qu'ils vont récolter autant de points que l'an passé. Mais il n'y a aucun doute dans mon esprit, Dan, qu'avec l'arrivée de Pacioretty, puis comme je te disais, l'arrivée de Stachny aussi, je pense que c'est une équipe qu'il faut considérer dans les candidats à pouvoir gagner la Coupe Stanley, mais je dirais pas dans les favoris. Mais tu sais, si on se reparle dans 11 mois, dans 10 mois, puis les Golden Knights sont en finale de la Coupe, je tomberai pas en bas de ma chaise. Mais moi, je m'attends à ce que ce soit peut-être un petit peu moins éloquent que l'année passée avec les changements qu'on a faits. Puis surtout avec le fait que c'est la deuxième année, je pense qu'il va y avoir un changement d'attitude dans les adversaires, même aussi du côté de Vegas. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va virer.
Parce que moi, je pense, un peu comme toi, je te rejoins dans ce que tu viens de dire. Moi, je suis à peu près convaincu que Stachny et Pacioretty, c'est beaucoup mieux que Neal et Perron. Perron, j'ai jamais été un grand fan. Puis James Neal, j'ai l'impression que c'est un gars qui surfe, si tu comprends mon expression.
Oui. Puis écoute, je suis d'accord avec toi aussi pour David Perron. J'ai beaucoup de respect pour le joueur de hockey. Mais moi, jamais, tu sais ce que les Blues de Saint-Louis ont fait, je leur ai jamais donné ce contrat-là. Ça a toujours été un excellent joueur de soutien, mais pas nécessairement un joueur d'impact. Je pense que, comme tu as mentionné, les deux gars qu'on a présentement au lieu des deux qu'on avait avant. Je pense qu'on est un petit peu supérieur. Mais il y a vraiment une question de chimie, de feeling, de détails qui va faire en sorte, je pense, d'ajustement des autres équipes aussi, qui me fait dire que ça va peut-être être différent dans les résultats. Mais c'est sûr que dans le cas des Golden Knights, s'ils prenaient une débarque et ils finissaient 11e ou 12e, je serais quand même dans leur conférence, je serais quand même très surpris. Mais s'ils finissaient premier encore de leur conférence, là aussi, je serais très surpris parce que je pense que sincèrement, il y a quelques meilleures équipes que Vegas dans la conférence de l'Ouest.
OK, parlons-en des meilleures équipes. En date d'aujourd'hui, selon toi, quelle est la meilleure équipe de la Ligue nationale, François?
De la Ligue nationale? Oh, ça, c'est une très bonne question. Oui, écoute,
je vais te donner, parce que les auditeurs sont pas courants, mais je vais leur dire en même temps, ce que j'adore de nos chroniques, puis c'est la même chose avec les autres collaborateurs de la semaine, les gars, à midi et demi, je leur envoie pas les sujets. Donc, tu savais pas que j'allais te poser cette question-là. Pendant que tu y réfléchis, je vais te donner le top 5. Je vais te donner le top 6 parce qu'il y a des équipes qui sont à égalité. Aujourd'hui, on a sorti un classement des équipes qui ont le plus de chances de gagner la Coupe Stanley.
Okay.
C'est pas pour t'influencer. Je le donne aussi à titre informatif pour les auditeurs qui sont à l'écoute. Toronto est au premier rang, Tampa Bay deuxième, Winnipeg, Nashville, Vegas et Washington suivent dans l'ordre.
OK, intéressant parce que j'allais dire mon choix. Présentement, là, je t'aurais dit le Lightning de Tampa Bay parce que c'est le club le plus complet, je pense. Ouais, j'aime beaucoup les Jets. Je trouve quand même qu'il y a quelques points d'interrogation qu'on a encore peut-être défensivement. Les Maple Leafs, on va marquer des buts, mais on a le droit d'avoir des doutes sur la défensive et aussi devant le filet, ce qui va se passer avec Frédéric Anderson. Donc moi, je pense présentement, avec la transaction qui a été faite l'an passé avec les Rangers, je pense que le Lightning a le club le plus complet. Est-ce que Vasilevski peut répéter? Est-ce que tout le monde est heureux? Parce qu'on s'entend, Dan, il y a juste une rondelle, il y a juste quatre trios, tu ne peux pas donner de la glace à tout le monde.
Ouais.
Il va peut-être avoir des gars qui vont bougonner un peu à un certain moment donné. Mais pour moi, je pense que présentement, le Lightning a le club le plus complet, peut-être le club le mieux placé à aspirer à la Coupe Stanley.
Je suis d'accord.
Et, l'année passée, il n'était pas loin non plus l'année passée. Il était à une victoire près de se rendre en finale. Fait que pour moi, je pense que c'est le club le plus talentueux. Puis tu sais, si tu regardes les deux conférences, j'ai pas le choix de penser que les Jets sont peut-être les mieux placés dans l'Ouest. Mais je pense que là aussi, on a encore des questions à répondre sur peut-être certains aspects de cette équipe-là, mais ça reste un très bon club de hockey aussi.
Mais François, le Lightning, 3 finales de conférence en 4 ans, pas gagné la Coupe Stanley sous l'ère Steve Yzerman, qu'est-ce qui leur a manqué?
C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il leur manquait peut-être un petit peu de, je vais dire un petit peu de chien, là. Tu sais, l'expression en anglais que j'ai en tête, c'est être mean. Tu sais, un club qui est peut-être un petit peu plus, sans dire salaud, mais un club qui est plus difficile à affronter. Tu vas me dire, il y a quand même quelques gars qui peuvent jouer leur rôle de papier sablé dans cette équipe-là, mais je trouve que c'est un club qui, parfois, est tellement talentueux que, tu sais pas, aller jouer à Tampa Bay, là, je pense pas que ce soit un endroit où ce soit très intimidant pour une équipe qui va aller là. Il leur manque peut-être un petit peu de ça, un petit peu de chien, un petit peu de guts pour dire que c'est un club un peu plus difficile à affronter. Parce que pour le reste, écoute, ils sont venus très, très près en quelques occasions. Des fois, il te manque juste un but opportun, une malchance qui change une série, puis des petits détails comme ça. Mais sincèrement, je pense pas qu'il leur manque grand-chose. Puis si tu posais la question à Julien Brisebois pour dire qu'est-ce que tu veux absolument ajouter à cette équipe-là, je suis pas sûr nécessairement qu'il y aurait une réponse facile à donner parce que sincèrement, je pense qu'ils sont bons partout. Puis pour moi, c'est l'équipe favorite, puis c'est l'équipe qui a tout ce qu'il y a présent, tout ce qu'il y a besoin présentement pour aller jusqu'au bout. Donc, je pense pas qu'il leur manque nécessairement quelque chose ou qu'il leur a manqué nécessairement quelque chose, peut-être mis à part un petit peu de grit là, puis un petit peu de papier sablé dans cet alignement-là.
Souvent, on dit qu'en série, c'est pas la meilleure équipe qui gagne la Coupe Stanley, mais celle qui joue le mieux pendant 2 mois, celle qui a le plus de chiens. Tu parles de grip, puis c'est vrai que ça en prend de la grit. Mais tu sais quoi, François? Si tu as de la misère à t'endormir ce soir-là, tu mettras sur une feuille à gauche la formation du Lightning en date d'aujourd'hui. Puis sur l'autre feuille à droite, tu mettras la formation des Kings qui a gagné la Coupe en 2012 puis en 2014. Tu vas voir, puis j'ai un énorme respect pour Kopitar, Quick et Doughty. Je sais que Jeff Carter, c'est un bon joueur, là. Mais tu vas voir que ça se compare pas. Puis pourtant, il y a une équipe qui a 2 Coupes Stanley, puis l'autre n'a pas.
Et puis ta comparaison est intéressante parce que quand tu regardes les Kings, ça, c'en était un club qui était assez dur à affronter aussi.
Exact.
C'est un club qui était assez solide.
Oui.
Je pense que Jonathan Quick mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect et de crédit pour ce qu'il a fait dans la conquête des 2 Coupes Stanley. Mais c'était l'exemple parfait d'une équipe qui est dans une bonne séquence, qui arrive en série, puis qui a un club qui est taillé pour les séries. On a, combien de fois t'as entendu ça? C'est des clubs qui sont très bons en saison régulière, qui arrivent en série, puis t'as l'impression que le club est pas fait pour ça. Il y a des gars qui répondent pas à la pression, qui marquent pas les gros buts quand on en a besoin. Et dans le cas des Kings, on dirait que c'était tout le contraire. Capable de gagner des matchs 6-5, capable de gagner des matchs 2-1, capable de protéger des avances. On avait, je trouvais, défensivement, il y a deux ou trois gars qu'on connaissait plus ou moins, mais qui étaient des gars qui jouaient avec cœur, qui frappaient. Puis le reste, quand tu avais des avantages numériques, quand tu avais des occasions, ben là, tu avais toujours quelqu'un qui jouait le héros à chaque soir. Fait que je trouvais que c'était un club qui était, je pense, fabriqué pour performer en série. C'est pour ça qu'on a réussi à gagner des Coupes cette année. Mais c'est ça, de dire que je vais construire un club pour les séries, c'est une chose. Puis je pense que l'exemple de Marc Bergevin est bon là-dessus. C'est-à-dire que quand tu es allé chercher des Andrew Shaw puis des gars comme ça en disant « j'ai besoin que mon club soit plus dur à affronter », mais je veux dire, il faut jamais que tu oublies que le gars peut être bon rendu au printemps, mais il faut que tu te rendes jusque-là, que tu te places, puis que tu aies un club compétitif puis arriver en bonne position pour les séries. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a certains clubs comme ça que tu veux. Puis je vais te donner un exemple, mais je trouve qu'un club comme Columbus, c'est un club un peu fatigant à affronter. Moi, je trouve que c'est le genre de club qui pourrait connaître du succès en série. L'année passée, il avait gagné les deux premiers matchs contre Washington avant de s'écrouler. Mais c'est le genre de club que, justement, je pense que pourrait à un moment donné arriver en série puis surprendre parce que c'est un club qui est définitivement très difficile à affronter.
OK. Steve Eisenman qui quitte aujourd'hui. Julien Brisebois qui le remplace. Évidemment, c'était le dauphin. C'était prévu. C'est un gars très compétent qui a seulement 41 ans. Eisenman qui part avec une année de contrat encore puis qui dit « je vais être conseiller à distance ». Plus près de la famille, est-ce que tu vas tomber en bas de ta chaise si tu apprends que l'an prochain, il devient président ou DG des Red Wings?
Non, pas du tout. Puis, je sais pas si tu as vu, mais dans son discours aux joueurs aujourd'hui, il a dit qu'il retournait à Détroit. Je pense que la façon dont il mentionnait, c'est qu'il voulait aller retourner à Détroit pour vivre plus proche de sa famille et des choses comme ça. Mais ça donnait l'impression aussi que il se prépare quelque chose. Je sais que Ken Allen a signé une prolongation de contrat de 2 ans et pas très longtemps. Sauf qu'on est rendu là à Détroit pour peut-être là, changer la dynamique parce que, écoute, que Zetterberg soit là ou pas cette année, c'est un club qui est en reconstruction. Oui. On n'a pas nécessairement grand-chose à échanger. On a quelques espoirs intéressants pour dire qu'au moins on a de quoi pour reconstruire. Mais je tomberai pas en bas de ma chaise pantoute si Eisenman rebondit là, que ce soit l'année prochaine ou dans 2 ans. Je pense que ça fait partie du plan dans le cas d'Eisenman, puis même dans le cas des Red Wings, parce que je pense que Ken Allen a fait du très bon travail, mais je pense aussi qu'il a fait son temps. Puis que dans les 2 dernières saisons, Ken Allen a pris des très mauvaises décisions, là, que ce soit des signatures de Franz Nilsson puis des choses comme ça que je trouvais épouvantables. Mais où je donne le crédit quand même que tu es allé chercher des bons choix pour un gars comme Tatar, tu as quand même fait quelques bonnes transactions. Mais on est peut-être dû pour tourner la page à Détroit puis vraiment amorcer une véritable reconstruction. Puis c'est dommage parce que l'année passée, ils sont arrivés dans le nouveau building, mais ils sont juste pas arrivés au bon moment parce que il y a quelques années difficiles qui s'en viennent à Détroit, ça c'est sûr et certain.
Ils ont fait les séries 25 années de suite. Faut donner beaucoup de crédit à Ken Allen pour ça, en espérant qu'il manque pas les séries sur une période de 25 ans par la suite. on va entendre Steve Eisenman qui parle de Julien Brisebois en point de presse cet après-midi.
In the 8 years we've been together, Julian and I have worked closely on every decision that we've made, every situation, our philosophies about how an organization should be run, the type of team we want, the type of players, the type of people we want are all very aligned.
Il y a 31 équipes dans la Ligue nationale, bientôt 32. J'espère qu'il y a des équipes qui prennent le Lightning pas en admiration, mais en modèle. Et je parle pas de rendement sur la patinoire. Ça vient avec, évidemment, là, mais je parle en termes d'organisation. C'est Julien Brisebois qui était le DG adjoint qui était en charge des jeunes. On a l'impression qu'un jeune qui était repêché par Tampa Bay était développé avec la philosophie de l'organisation. Et quand il arrivait à la Ligue nationale, il était prêt à jouer. Ces deux gars-là avaient l'air complices. Julien Brisebois, pendant 8 ans, il a dû en avoir 4, 5, 6, 7, 8 offres pour être DG ailleurs dans la Ligue nationale. Il a décidé de rester là, puis aujourd'hui, son pari est remporté. Il devient DG du Lightning. Ce que fait le Lightning, c'est pas de la tricherie. C'est possible pour toutes les équipes, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'équipes qui empruntent ce modèle-là.
Non, je suis entièrement d'accord avec toi, puis je pense que, de un, on a très bien repêché. Je pense que c'est évidemment primordial, c'est que ce soit un Edmund que tu ramasses comme premier choix ou un Vasilevski que tu vas chercher plus loin, des gars de même. Il faut que tu repêches comme du monde. Ça, c'est la première chose. Mais moi, ce que j'aime, puis c'est un peu ce que tu mentionnes, c'est que surtout donner la chance à plusieurs jeunes joueurs qui soit ne sont pas repêchés, qui n'ont pas eu, tu sais, peut-être la chance qu'ils espéraient. Tu sais, évidemment, le nom de Yanni Gourde puis Alexandre Barré-Boulet, puis tu peux en mettre quelques-uns, mais tu sais, moi, si tu veux, Dan, quand tu vois un gars comme Yanni Gourde qui, pendant une ou deux saisons, va finir ses premiers marqueurs ou presque dans la LHJMQ, le gars fait pas ça par hasard. Tu sais, tu peux pas ramasser 112 points d'une saison junior sans avoir de talent. Fait que même si le gars est pas repêché, ça vaut la peine de donner un try-out, un essai pour voir qu'est-ce que le gars peut te donner. Puis moi, j'ai trouvé que c'est vrai pour ces deux gars-là. Je pense que c'est vrai pour plusieurs autres jeunes joueurs qu'on a dans l'organisation. On a réussi vraiment à bien repêcher, à développer des joueurs qu'on ne voyait peut-être pas jouer dans la Ligue nationale, puis de trouver comme des compléments pour amener autour de ça des gars qui vont venir compléter le casse-tête. Comme par exemple la transaction qu'on a fait l'an passé pour McDonald's. J'ai trouvé qu'on n'a pas payé si cher que ça dans les circonstances. Puis on trouvait que c'est ce qui nous manquait. Fait que moi, j'ai vraiment trouvé qu'on a fait du bon travail. On n'a pas fait de folie à essayer de signer Ben Bishop à long terme en sachant que Vasilevski s'en venait. Toutes sortes de petits détails qui font en sorte que tu te retrouves dans une situation où tu as une bonne équipe. La plupart de tes gros joueurs sont sous contrat. Évidemment, tu sais que tu ne pourras pas tous les mettre sous contrat, mais la plupart le sont. Puis tu regardes, un gars comme Stamkos aurait pu profiter à un moment donné de son autonomie, comme Tavares le fait, mais on a réussi à le convaincre de rester parce que c'est une belle organisation, parce qu'on gagne des matchs, on a une chance de gagner la Coupe Stanley. Puis je pense que les joueurs sont très heureux là-bas de la façon dont on est encadré. Fait que ça fait en sorte que il n'y a aucun doute dans mon esprit que Lightning, dans la façon de faire les choses, là, sont assurément dans le top de la Ligue nationale de hockey.
Le collègue Will nous écoutait parler, puis il a répertorié 7 joueurs qui ont un rôle important à jouer actuellement avec le Lightning et qui sont issus du club école dirigé dans les dernières années par, supervisé à tout le moins par Julien Brisebois. Pendant ce temps-là, le Canadien est composé en date d'aujourd'hui, François, de 3 choix de première ronde. Juleson, Sherbach et Price. On va s'entendre que les deux premiers n'ont pas un gros rôle à dire, mais Price en a un. 6 autres choix de repêchage. Gallagher, Hudon, De La Rose, Mété, Lekkonen et Plekanec. Et 17 joueurs qui arrivent d'un peu partout, quatre coins de la Ligue, via échange, signature ou autre. Les Tatars, Drouin, Demi, Dano et compagnie, je les nommerai pas tous, là. Mais c'est la preuve, je trouve, quand on met ça sur une feuille, de la façon dont je viens de le présenter, c'est la preuve, une fois de plus, et là, les gens vont trouver que je m'acharne, mais j'ai de la misère à croire le contraire. C'est la preuve que Trevor Timmins n'a pas fait son travail.
Ah, puis, mais ça reste aussi que quand tu repêches certains joueurs, parfois tu vas te tromper, mais je pense aussi que le Canadien en a échappé quelques-uns en cours de route sur le développement. Tu sais, il y a une tonne de joueurs, puis là, pas juste des choix de première ronde, mais des gars qui avaient du potentiel. Tu as toujours l'impression que ces joueurs-là ne se sont pas développés comme prévu, que les joueurs qu'on voyait peut-être être des joueurs de deux premiers trios, finalement, ne le sont pas. Puis c'est plein de petits détails comme ça qui font en sorte qu'à un moment donné, il fallait faire des changements aussi dans l'organisation pour dire est-ce qu'on s'est trompé dans notre coach dans la Ligue américaine avec notre groupe de recruteurs, est-ce qu'on pourrait apporter des changements aussi? Puis ce qui est dommage, Dan, puis ça, je pense qu'il faut quand même l'admettre que même si Trevor Timmins, je pense, fait plus de mauvais que de bons coups, c'est quand il a fait des bons coups, on lui a coupé l'herbe sous le pied, sous le pied un peu, là, que ce soit des McDonough, des Subban ou compagnie, on l'a pas aidé non plus. Puis tout ça mis ensemble fait en sorte que tu te retrouves avec une espèce de romance de joueurs que je trouve peut-être un petit peu plus intéressant aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans avec l'arrivée de Suzuki et quelques jeunes. Mais reste à voir, là, quand je te l'ai mentionné hier aussi, un gars comme Suzuki, on en a parlé, puis là, il y a des gens qui en parlaient comme le futur Crosby de demain, il faut faire attention. Là, c'est un gars qui est très talentueux, qui, je pense, peut être un très bon joueur dans la Ligue. Mais avant de penser que ça va devenir un joueur de premier trio qui va marquer 100 points dans la Ligue, il faut se garder une petite réserve sur comment il va se développer puis comment le Canadien va se développer. Il va le développer parce que ça a définitivement été problématique dans les 10 ou 12 dernières années. Même plus que ça, Dan. Je pense qu'il faut sûrement faire qu'à 20 ans sur la façon dont on a développé nos jeunes et les choix de première ronde qui sont devenus des flops. Il y en a une tonne, comme rarement des équipes se sont trompées avec leurs choix de première ronde.
Mais personne à Montréal va te dire que Suzuki est ordinaire parce que ça fait partie de l'ADN d'être média à Montréal ou partisan du Canadien. On exagère tout le temps à la hausse. Et c'est comme ça qu'on les connaît. Ils changeront pas personne. Un mot en terminant pour te parler des Capitales. C'est le début de la finale ce soir. Ça a été nuageux toute la journée. Il y avait un risque d'averse. On sait pas trop. C'est sûr que ça fait pas courir les foules une soirée comme ce soir. On n'aurait pas été mieux d'attendre une soirée où il allait faire soleil et on allait pouvoir avoir 3 000 à 4 000 personnes?
Ben, écoute, Dan, au moment où je te parle, là, on n'est même pas sûr qu'on va jouer encore. Ce que tu as mentionné, c'est exactement ça. Les officiels sont sur le terrain avec les gens des deux équipes depuis, écoute, ça doit faire une demi-heure, 45 minutes. On a regardé le terrain sous toutes ses facettes. Là, le problème, c'était surtout au marbre, là, parce qu'il y avait eu beaucoup d'eau, fait qu'il y avait de la boue énormément. Mais tu sais, je vais être bien honnête avec toi, Dan, je pense que les Capitals ne veulent pas jouer ce soir. Je pense que les Miners de Sussex ne veulent pas jouer non plus. Le problème, c'est que ce sont les officiels et la Ligue qui souvent ont le dernier mot. Parce que ce que tu as mentionné est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'écoute, là, au moment où on se parle, c'est à peu près quoi, à 40 minutes du premier lancé, il n'y a pas grand monde d'arriver. Mais si on décide de décaler d'une journée, il annonce beau demain, il annonce beau jeudi, alors qu'à Sussex, jeudi, il annonce de la pluie. Donc, ça semblait vouloir faire l'affaire de tout le monde. Mais là, on essaie de convaincre les arbitres. On n'a pas encore pris une décision officielle, mais je pense qu'on aimerait ne pas jouer le match de ce soir pour décaler tout ça d'une journée. Mais au moment où je te parle, on n'a pas encore confirmé le tout. Mais écoute, ça discute. Puis l'officiel en chef est au téléphone depuis je ne sais pas combien de temps. Parce que le grand boss de la Ligue Can-Am est probablement en Caroline du Nord. Fait que lui, il est deux pieds sur son pouf. Il dit non, vous êtes supposé de jouer, mais ici, on veut pas jouer. Donc, on n'a pas la confirmation, mais comme je te mentionne, je pense qu'on aimerait repousser ça d'une journée pour le bien de tout le monde, mais on n'a pas encore pris la décision officiellement.
Tu sais, François, si les Capitales ont à donner 2 000 $ de plus de chambre d'hôtel pour une soirée supplémentaire, puis des montants forfaitaires pour la nourriture pour les joueurs de l'autre équipe, ben ils vont le récupérer avec les recettes au guichet pour un match dans une soirée ensoleillée, là.
Non, aucun doute là-dessus, parce que tu sais, c'est peut-être, je sais pas, un 1 200 ce soir, puis 3 000 demain, ça fait toute une différence. Mais le problème, c'est que quand t'as pas le dernier mot, c'est pas toi qui décides, fait que t'as pas beaucoup de contrôle là-dessus. Mais tu sais, demain, je veux dire, ils annoncent pas 32 non plus, mais ils annoncent du soleil où tu te poses pas la question. Puis là, aujourd'hui, c'est exactement le genre de journée où les gens se disent qu'est-ce qu'on fait si, tu sais, on y va-tu, on le regarde-tu sur la web diffusion, il fait pas très beau, il va-tu rebouiller, est-ce que les Capitales jouent? Il y a tellement de points d'interrogation que même certains maniaques décident de pas venir. Je pense que si on remettait ça d'une journée, ça ferait l'affaire de bien du monde. Mais là, écoute, t'es rendu à 6h30, on n'a pas pris de décision. Il va falloir que ça se fasse bientôt, parce que sinon, on n'aura pas le choix de jouer sinon. Mais comme je te dis, je pense qu'on essaie de convaincre les gens concernés que pour le... Quand les deux équipes sont d'accord, je pense qu'il n'y a pas de problème à le faire. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que je pense qu'on aurait aimé le faire précédemment pour pas que tout le monde se déplace. Puis là, ben rendu là, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue pas? Donc, ça semble un peu compliqué, parce qu'avec une surface synthétique, Dan, on s'entend que terrain quand même encore en bas de condition. Mais il y aurait une demi-heure de travail à faire aux membres pour s'assurer que ce soit pas aussi mou et boiteux que ce l'est présentement. Là.
Parfait. Gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée. Merci.
Pendant que les joueurs enfilent leurs patins, au FM 93, on donne tout un show. L'avant-match, lundi au vendredi, 18h, avec Dan Pou.
Chez Toyota, on peut prédire que vous allez faire une bonne affaire avec le RAV4 2 roues motrices LE à un taux de location de 0% pour 39 mois. Mais ce qu'on peut pas vraiment prédire, c'est si vous allez être à la hauteur des devoirs de vos enfants.
Hé hey papa, comment on calcule l'hypoténuse d'un triangle isocèle avec le théorème de Pythagore?
Facile, facile. Demande à ta mère.
À la place, passez donc chez votre concessionnaire Toyota pour profiter en plus d'une remise de 1 500 $ à la location. Location 39 mois, total de 169 paiements, 10 cents du kilomètre applicable après 65 000 km. Prix de vente suggéré de 30 064 $.
La mafia italienne, une communauté juive astique, un camp naturiste, un meurtre, une disparition, puis tout ça en masse-couche. Chef enquêteur Constance Forêt, on vous envoie du renfort.
Fait d'hiver, nouvelle enquête. Ce soir, 21h, sur Ici Radio-Canada Télé.
Cet automne, chez Vaillancourt Portes et Fenêtres, on donne notre 125% pour tous nos clients qui font des rénos. Oui, oui, 125%. 100% fait au Québec et jusqu'à 25% de rabais. Des conditions s'appliquent. Plus de détails au vaillancourt.ca.
Dégustez le meilleur de la terre et de la mer à L'Ophélia. Côté mer, L'Ophélia vous offre entre autres le risotto au homard, la morue d'Islande et le crabe des neiges. Côté terre, découvrez une vaste sélection de viandes, du contre-filet au tomahawk en passant par le filet mignon. Une belle façon de découvrir L'Ophélia, c'est de profiter du menu midi à prix d'amis. Dans un décor rappelant un yacht de luxe, embarquez à bord de L'Ophélia. Service de valet gratuit en tout temps. Réservé dès maintenant. À L'Ophélia, sur Grande Allée.
Alors, vous voilà, les yeux fixés sur la route ou sur un ordinateur. Ces jolies prunelles travaillent fort. Mais vos yeux essayent-ils de vous dire quelque chose? Sont-ils secs ou graveleux? Est-ce qu'ils picotent ou brûlent? Aurez-vous bientôt encore besoin de larmes artificielles? Vous souffrez peut-être de sécheresse oculaire, une affection inflammatoire chronique qui, heureusement, peut être traitée. Renseignez-vous auprès d'un professionnel des soins de la vue et visitez mavuejyvois.ca.
Un jour, mon plus vieux, qui est musicien, m'a demandé de l'aider à financer son album. J'ai décidé de retirer des REER pour lui prêter l'argent. Malheureusement, peu de temps après, j'ai perdu mon emploi.
Chez Raymond Chabot, on entend des milliers d'histoires d'endettement depuis 40 ans.
Quand j'ai parlé de mes dettes à un conseiller en redressement financier, ça m'a libérée. À mon âge, c'est le temps de prendre soin de moi.
Quand survient un imprévu, on peut vous aider avec la suite de votre histoire. Confiez-nous vos problèmes de dette. Faites-le 1-855-R-CHABOT. Les tarifs des syndicats autorisés en insolvabilité sont régis par la loi.
Vous avez des enfants? Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair aident votre famille. Changez pour une Kia et non seulement on rachète votre bail, mais vous partez avec un chèque selon le nombre d'enfants que vous avez. Un enfant, 300 $. Deux enfants, 600. Trois enfants, 900. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Ça sera 35 $, s'il vous plaît. Voulez-vous un café à 1 $ avec ça?
1 $, c'est-tu celui d'hier ou...
Ben non, ça va être un vrai bon café.
C'est quoi, je dois le moudre moi-même ou il est tout petit ou je peux pas choisir sa saveur?
Non, il sera comme vous l'aimez, monsieur.
Bon, c'est quoi le truc? Et où la caméra?
En ce moment, chez Couche-Tard, le café de votre choix est à 1 $ à l'achat de 25 litres ou plus d'essence. Toute variété et tout format, en tout temps. Couche-Tard. Simple comme bonjour.
Oh oui, préparez-vous à avoir chaud. C'est country au casino. Pimentez vos soirées avec des chorégraphies sexy qui vous feront dire hi-ha. Ici Grégory Charles. Du 14 septembre au 20 octobre, c'est country au casino. On vous en met plein la vue avec des chorégraphies sexy et nos soirées des dames tous les vendredis. Ça va être chaud au casino. Réservé aux 18 ans et plus. Et tous les détails sur casinodecharlevoix.ca.
Vous avez besoin d'un PC ou d'un Mac? Venez visiter un des 3 magasins PC en vrac. Une immense sélection avec 600 ordinateurs en inventaire à partir de $159. PC en vrac, Québec, Saint-Nicolas et Charlevoix.
En septembre, l'événement toujours en tête bat son plein chez Kia Lévis. Et plus que jamais, c'est le temps de passer nous voir. Avec un super rabais au comptant de $4000, le prix de la Forte LXBM n'a jamais été aussi bas, à $13145. De plus, obtenez un taux de financement de 0% et même l'entretien sans frais pour 2 ans sur plusieurs autres modèles. Passez nous voir chez Kia Lévis. Nous sommes ouverts même le samedi.
Chris DeBerg présente Solo Québec. Accompagné de sa guitare et de son piano. Au Théâtre Capitole le 23 septembre pour un soir seulement. Billets en vente au 694-4444. Lecapitole.com.
Pour tout savoir des enjeux sportifs, pour connaître les dernières nouvelles, Dan est là. Dan Pour, c'est l'entraîneur, le fan, le gérant des stades, le journaliste. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Grosse nouvelle dans le monde du hockey qui a frappé la Ligue nationale en début d'après-midi aujourd'hui. La démission de Steve Yzerman, le directeur gérant très réputé du Lightning de Tampa Bay. Il lui restait une année à son contrat. Et évidemment, c'est son dauphin, Julien Brisebois, qui prend la relève comme directeur général de l'équipe. On va jaser avec l'ancien gardien de la Ligue nationale qui vit à Tampa maintenant. C'est Mathieu Garon qu'on joint au téléphone. Salut Mathieu.
Salut, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, très bien.
As-tu été surpris autant que moi?
Oui, j'étais assez surpris. C'était quelque chose que donc je m'attendais pas nécessairement. Mais en même temps, je pense que c'est pas une surprise que ce soit Julien qui a eu l'emploi. C'était,
non.
Je pense que c'est un petit peu quelque chose qui a été prévu dans les dernières années, que Julien était le prochain. Puis je pense que Julien avait vraiment une bonne réputation autour de la Ligue. Puis, mais c'est certain que oui, que le fait que ce soit arrivé, je pense, durant quand des recrues comme ça, c'est vraiment une surprise. C'est arrivé en juin, juillet, ça a peut-être été différent, mais...
Steve Yzerman a une excellente réputation aux quatre coins de la Ligue nationale. J'imagine qu'il est très apprécié à Tampa Bay.
Oui, c'est quelqu'un qui... je pense que c'est quelqu'un avec extrêmement de classe puis d'expérience, puis... Tout le monde le respecte, que ce soit les joueurs ou les partisans, toute l'organisation. Ça va être une dure perte, c'est certain, de perdre Steve Yzerman. Je pense qu'il veut quand même continuer d'aider Julien dans ses fonctions, mais Steve était vraiment un bon leader pour l'équipe, mais j'ai pas de doute que Julien va être capable de prendre la relève.
Comment on a réussi au fil des ans à arriver avec le Lightning, une concession où il y a du monde dans les estrades, 3 finales de conférence en 4 ans, une bonne crédibilité avec Yzerman et Brisebois, alors qu'en Floride, on a l'impression que c'est croche puis c'est moribond depuis 20 ans?
Ben écoute, je pense que ça coïncide avec l'arrivée du nouveau propriétaire, M. Jeff Vinnick, ainsi que c'est certain, Steve Eisenman, quand il est arrivé. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits, beaucoup de bonnes décisions. Ils ont repêché des très bons joueurs, ils ont signé des joueurs, des jeunes joueurs agents libres qui n'avaient pas été repêchés. Et d'autres équipes avaient ignoré des petits joueurs. Puis, je pense de Tyler Johnson, je pense il y a quelques autres joueurs aussi en particulier. Mais c'est une très bonne organisation. C'est des très bonnes têtes d'hockey.
Oui.
Puis c'est certain que le succès de l'équipe, ben les partisans embarquent dans ça. Puis je dirais, t'aimes pas depuis 3-4 ans, c'est vraiment une ville d'hockey. Ça a complètement changé ici. Là.
Est-ce que ça te surprend comme gars qui a gardé les buts avec eux?
Ben pas vraiment. C'est certain que moi j'étais avec ces gens-là il y a 5 ans, c'est ces gens-là qui étaient autour de l'équipe. Puis j'ai vu de très belles choses. Puis c'est une organisation très sérieuse. Puis tout ce que les succès qu'ils ont présentement, je suis pas vraiment surpris de ça. C'est certain que j'apprécie ça en tant que partisan maintenant de l'équipe là.
Tu dis que c'est une ville d'hockey, évidemment, ça demeure une ville où il fait beau, puis ça demeure une ville de la Floride. On n'aura jamais la pression des Rangers, des Maple Leafs ou du Canadien entourant cette équipe-là, mais est-ce que les gens, 3 finales de conférence en 4 ans, 1 participation à la finale de la Coupe, il y a eu la Coupe Stanley 2004 avec la gang de Le Cavalier, Richard, Saint-Louis et Abibuline, mais est-ce que tu sens que dans ces années-ci, le public ou les médias vont avoir encore plus d'attentes vu les derniers résultats?
Oui, c'est certain. Je pense même l'an passé, là, tout le monde espérait que le Lightning gagne la Coupe cette année, évidemment. Mais non, on sait qu'ils sont dans une phase là, comme les 3-4 prochaines années minimum. C'est des très belles années devant eux. Puis il va avoir plus de pression. L'année passée, quand ils n'avaient pas fait les séries de la saison précédente, on ne s'attendait peut-être pas à autant, mais cette année, je pense que les gens ils veulent vraiment une Coupe Stanley. Puis les joueurs de l'organisation, c'est les années qui peuvent être payantes, puis je pense qu'il faut qu'ils en profitent.
Mathieu, avant qu'on parle de toi, parce que ta vie m'intéresse quand même, pas simplement celle de Steve Eisenman, parle-moi un peu du jeune Sergachev qui a été repêché par le Canadien, mais il n'a pas eu le temps de jouer à Montréal. Les amateurs de hockey à l'écoute de mon émission ce soir sont probablement curieux de savoir ce que tu penses de ce jeune défenseur.
Ben, ça va être je pense que ce qu'on a vu de lui dans l'an passé, ça va être un très bon défenseur dans la Ligue. Il a peut-être encore besoin de prendre de l'expérience, mais il a tous les attributs pour un bon défenseur. Il a un très bon lancer, il patine bien. Il n'a pas peur de faire des jeux un petit peu plus risqués. C'est certain qu'il va se faire prendre à certains moments, mais il va apprendre à ses erreurs. Puis ça va devenir c'est peut-être beaucoup dire de devenir un Edmund, mais ça va devenir un top 3 défenseur d'une équipe. J'espère qu'il va rester ici pour le Lightning, mais ça va être un top 2-3 défenseurs certainement dans la Ligue nationale.
Est-ce que le joueur clé du Lightning en date d'aujourd'hui, c'est Kucherov, Stamkos, Edmund ou un mélange des trois?
Je pense que c'est un mélange des trois, puis il ne faut pas que tu oublies le gardien de but.
Oui, Vasilevski, oui.
Je pense qu'ils ont toutes les positions, ils ont des très bons joueurs, là, des superstars, puis dans les buts. Vasilevski, l'an passé, c'est certain que ça paraît bien de jouer pour une bonne équipe, puis on lui a pas donné le crédit qu'il mérite, mais c'est un très, très bon gardien de but. Puis les autres joueurs que tu as nommés, on n'a pas besoin d'en parler trop, on sait qu'à quel point ils sont importants pour l'équipe.
Mathieu, qu'est-ce que tu fais maintenant à Tampa Bay?
Officiellement, depuis le 1er juillet, je travaille pour le Lightning. Je travaille du côté hockey communautaire, fait que nous autres, on essaie d'enseigner le hockey aux jeunes, que ce soit sur la glace ou dans les écoles. Puis on se promène, puis à grandir au Québec, on se rend pas compte à quel point on est né avec un bâton de hockey dans les mains. Mais ici, en Floride, justement, aujourd'hui, j'étais dans une école dans le coin d'Orlando, puis on a peut-être vu 150 jeunes, puis c'est tous des jeunes que, je sais pas, il y en a peut-être une dizaine qui savaient c'est quoi le hockey ou comment c'est prendre le hockey dans leurs mains. Fait qu'on essaie de leur enseigner ça, puis et c'est comme ça qu'on essaie de grandir le hockey ici dans la région de Tampa.
À moins que je me trompe, parce que j'ai un chum qui est allé 2-3 fois dans les dernières années, vous avez un genre de semaine de hockey de rêve pour les adultes, hein?
Oui, et puis c'est ça, l'an passé, ça avait été cancellé en raison de la glace. C'était pas facile d'avoir la glace à Maury Arena, mais on va en avoir encore un autre cette année. C'est vraiment le fun. Je pense qu'on prend une quarantaine d'amateurs qui viennent jouer avec. On est peut-être une quinzaine d'anciens joueurs qui sont là. On passe 4-5 jours avec ces gens-là, puis on a vraiment du fun sur la glace puis en dehors de la glace.
C'est à quel moment de l'année? Les gens qui nous écoutent, qui voudraient s'inscrire, est-ce qu'il est trop tard?
Non, c'est pas trop tard. Je te dis que même c'est pas encore sorti. J'ai vu les dates, là, mais je me souviens pas. C'est dans le coin de... Dans fin février, je pense, c'est dans ce coin-là. Fait que c'est... Il y a encore beaucoup de temps. On a beaucoup de Québécois qui viennent. On a 4-5 Québécois peut-être par année qui viennent. Puis c'est le fun parce que c'est souvent les mêmes visages qui reviennent. Fait qu'on est rendu amis avec tous ces gens-là.
Parfait. Un gros merci de nous avoir parlé, Mathieu. Très apprécié. Bonne soirée à toi.
Ça fait plaisir. Bonne soirée.
À bientôt. Mathieu Garon, l'ancien gardien de la Ligue nationale de hockey et du Canadien et du Lightning, qui nous parlait de cette démission relativement surprenante en début d'après-midi aujourd'hui. La démission de Steve Yzerman comme DG du Lightning, remplacé évidemment par le Québécois Julien Brisebois.
Au FM 93, ready? L'avant-match avec Dan Pou. Jusqu'à 19h, 93, c'est l'avant-match. Ensuite, le FM 93 présente les amateurs de sport. FM 93.
Le groupe Teach vous attend son concessionnaire Circuit Acura pour vous présenter ses offres de la rentrée. Connaissez-vous notre ILX? Luxueuse et performante, vous aurez un incroyable plaisir à la conduire. En plus du service au-delà de vos attentes de la famille Teach, vous repartirez avec une ILX 2018 pour seulement $58 par semaine. En location 36 mois, taux de 0,9%, versement de $3,800 et un crédit en argent de $4,000 inclus. Seulement chez Circuit Acura, fier concessionnaire du groupe Teach.
Conseil de sommeil, de dormez-vous. Il n'y a rien comme un sommeil sans interruption.
Debout, debout! Allez chez Dormez-vous avant que le solde Méli-Mélo soit fini. Économisez gros sur des matelas et sommiers Méli-Mélo. Les couleurs sont dépareillées, mais on s'en fout! En plus, obtenez un matelas grand lit à plateau héros en super achat à $399.
Oh, mais voyons, qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Va-t'en, dégage! Ça finit ce soir, seulement chez Dormez-vous. Tout pour le sommeil.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
À Saint-Grégoire-en-Mauricie, Métro Beaumier entreprend un projet majeur de rénovation de $2,3 millions. L'épicerie ouverte en 1986 se met au goût du jour avec une offre renouvelée comprenant des produits bio ou sans gluten, un comptoir sushi, des produits en vrac et des caisses libre-service.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
Chez Québec Mitsubishi, ils sont tombés sur la borne. Le Outlander PHEV, le VUS hybride branchable le plus vendu au monde avec acompte de $2,000, revient à $99 par semaine à un taux de 0%, prêt pour livraison immédiate. Ils vont finir par me brancher. Tous les détails chez Québec Mitsubishi.
Prolonger le moment présent, c'est dans l'ADN de la Tulipe. C'est pour ça que la vente anniversaire se poursuit jusqu'à dimanche. Vous profitez encore des spéciaux hallucinants dans tous les secteurs. Dans la chasse, par exemple, non seulement on paie les taxes, mais on a aussi les experts, les bons conseils et les meilleurs prix. C'est garanti. Allez voir notre circulaire en ligne à l'atelier.com. Vous y trouverez toutes les grandes marques déjà réduites avec le choix du début de saison. La vente anniversaire se poursuit... Pardon, se prolonge jusqu'à dimanche dans vos deux magasins de Québec et Lévis.
Durant l'événement Passez à mieux, passez à Mazda, obtenez le Mazda CX-5 2018 à $69 par semaine, location 60 mois avec acompte, 0% au financement jusqu'à 72 mois, plus $750 de rabais ou 4 pneus d'hiver sans frais.
Mazda Châtel, sortie Pierre-Bertrand, secteur du Marais.
Une semaine gratuite pour vivre l'expérience du plus beau club sportif à Québec. Le Club Avantage Multisport vous invite à essayer son gym, workout, yoga, spinning, tennis et badminton avec garderie gratuite. Sous certaines conditions, détails à clubavantage.ca.
Problème de fondation? Fissure? Infiltration? Garco ne fait que ça. Et depuis longtemps. Garco. Spécialiste en endroits restreints depuis 25 ans. Visitez garco.co. Oui, garco.co.
Au marché du Vieux-Port de Québec, c'est le Festival des récoltes. Passez voir les producteurs locaux, tous présents pour vous offrir l'abondance de leurs récoltes.
Votre visite au marché du Vieux-Port de Québec pourrait vous amener à New York pour découvrir le traditionnel marché de Noël. Avouez que c'est génial! Pour participer, textez le mot « récolte » au 25226.
Marché du Vieux-Port de Québec, même fraîcheur, même endroit. Le marché du Vieux-Port, 7 jours sur 7. marchéduvieuxport.com.
Vous avez des enfants? Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair aident votre famille. Changez pour une Kia et non seulement on rachète votre bail, mais vous partez avec un chèque selon le nombre d'enfants que vous avez. Un enfant, 300 $. Deux enfants, 600. Trois enfants, 900. Chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
Laissez-vous impressionner par l'Orchestre symphonique de Québec. Au programme, 4 concerts inédits. Pierre Lapointe.
Mais si tu vraiment qui tu es.
Catherine Major, avec son invité, Ariane Moffat. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de films. Et en primeur à Québec, la symphonie du jeu vidéo. Une présentation des coups de poudre Hydro-Québec.
Pour tout savoir des enjeux sportifs, pour connaître les dernières nouvelles, Dan est là. Dan Pour, c'est l'entraîneur, le fan, le gérant d'estrade, le journaliste. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Merci d'être à l'écoute de l'avant-match. D'abord, vous dire que le match des Capitales est finalement remis à demain. Donc, il n'y a pas de match des Capitales ce soir. On va entamer la série finale contre l'équipe de Sussex, une équipe qui joue ses matchs à domicile à une quarantaine de minutes à l'ouest de la ville de New York. Donc, les Miners de Sussex, c'est l'équipe qui a terminé au premier rang du classement général de la Ligue CANAM cette année. Ils sont ici en ville, mais ils vont profiter d'une soirée de congé. Idéalement sur Grande Allée. S'ils vont sur Grande Allée, ça va donner plus de chances au Capital de gagner demain. Mais le match de ce soir est remis à demain. Les deux premiers matchs, donc, seront présentés demain et jeudi à Québec. Après quoi, la série va se transporter aux États-Unis. Une série 3-5. Les Capitals ont 7 championnats dans leur histoire. Ils participent à la finale pour une 10e année en 20 saisons d'existence. Au baseball junior aussi, il était supposé avoir un match à Charlebourg ce soir, étant donné que le Stade Canac est occupé par les Capitales. C'est les Diamants qui mènent 3-2 contre les Voyageurs de Jonquière. Le match numéro 6 est remis à demain également en raison du mauvais temps. Ce matin, j'ai assisté à une conférence donnée conjointement par Michel Laplante, le président des Capitales, et le docteur Richard Blanchette. C'était fort intéressant. C'était dans une salle du Château Frontenac que je connaissais pas. C'était comme au sous-sol du Château Frontenac. C'était bien organisé. C'était pour aider la Fondation des Capitales. Et j'ai fait un résumé de ma conférence de ce matin que vous pouvez retrouver sur fm93.com dans l'onglet du retour. Vous allez avoir le lien assez facilement. Donc, dans l'onglet du retour sur fm93.com, vous allez voir le résumé de cette conférence-là. Entre autres, je peux vous dire que j'ai appris que le surnom de Michel Laplante, à l'époque où il était plus jeune, c'était Val-d'Or, parce qu'il est originaire de Val-d'Or. Michel Laplante a été repêché par les Pirates de Pittsburgh, a lancé le premier match de l'histoire des Capitales ici à Québec, et est maintenant le président des Capitales. Mais je veux juste vous dire qu'à 17 ans, il n'avait jamais joué au baseball de sa vie. Fait que je ne ferai pas le résumé que j'ai fait dans le retour. Si vous voulez l'écouter, c'est sur fm93.com. Mais ça m'a quand même fasciné de l'entendre parler ce matin. Et le Doc Blanchette est toujours intéressant. Il nous a rappelé à quel point il fallait bouger pour améliorer notre santé. Il a tout à fait raison. Coupe Banque Nationale, victoire pour Rebecca Marino ce matin. Ce soir, vous pourrez voir la Montréalaise Françoise Abanda en action. Ça se passe évidemment au PEPS de l'Université Laval. J'ai un pointage de golf pour vous, mais en lien avec le tournoi du Canadien. On n'en parle pas beaucoup, hein? On dit toujours que la saison débute avec le tournoi de golf du Canadien. Mais au tournoi de golf du Canadien, c'est juste des déclarations. Notre défensive va être meilleure que l'année passée, puis Max Pacioretty a été échangé, puis ça va donner de la place aux autres, puis on a bien hâte d'avoir Tatar puis Suzuki. Mais ils ont joué au golf ou pas? Le meilleur joueur du Canadien au golf hier a été Nicolas Deslauriers. Il a ramené une carte de 76. Ça, c'est une information. Et voilà. Nicolas Deslauriers. Il a fait son élan, puis la balle est tombée dans le trou. Hein? L'image sonore en temps réel. Oui, monsieur. Donc, Nicolas Deslauriers a joué 76 hier au tournoi de golf du Canadien. Je suis convaincu que ça vous intéressait, même si c'était l'ouragan Max Pacioretty pour la journée d'hier. Le nouveau capitaine des Remparts a pour nom Benjamin Gagné. C'est le défenseur de 20 ans. Patrick Roy en a fait l'annonce aujourd'hui. Et j'attire votre attention sur un jeune qui joue avec les Chevaliers de Lévis. C'est un gars de la Beauce qui jouait avec l'équipe Bantam 3 de la Beauce l'année dernière. Son équipe a outrageusement dominé sur la scène provinciale. Son nom, c'est Joshua Roy. Si vous avez été attentif dans les dernières années, on l'a vu jouer au tournoi Pee-Wee. Joshua Roy a joué 4 matchs dans le Midget 3 cette année. Il a 9 points en 4 matchs. C'est le joueur de la semaine. Et je vous dirais que c'est le genre de joueur qui va mériter un déplacement de votre part pour aller le voir jouer cet hiver. Il porte le numéro 19 avec les Chevaliers de Lévis. Sachez également qu'au tournoi des recrues de Traverse City, c'est les équipes des Red Wings, des espoirs des Red Wings, qui vont affronter en finale de ce tournoi-là, qui regroupait 8 équipes. C'est les Red Wings contre les Blue Jackets ce soir, 19h, en finale. Joe Veleno, le joueur des Voltigeurs, a un bon tournoi pour les espoirs des Red Wings. Ce soir, c'est le début de Ron Fournier, notre collègue qui revient à 20h30 ce soir de ses semaines de vacances pour l'été où il a pris soin de sa santé et il a joué quelques rondes de golf. Donc ce soir, Ron va être sur nos ondes à compter de 20h30. Et je termine en vous parlant d'NFL avant qu'on écoute des extraits en lien avec le 11 septembre. La NFL hier, c'était les débuts pour Matt Patricia avec Détroit et pour John Gruden avec les Raiders. Dans les deux cas, ça a été catastrophique. Victoire de 48-17 des Jets sur les Lions et victoire de 33-13 des Rams de Los Angeles sur les Raiders d'Oakland. On est le 11 septembre aujourd'hui et mon collègue Will et moi, on a pensé vous faire entendre un entretien en lien avec le 11 septembre 2001 du psychologue sportif du Canadien, Sylvain Guimond, à qui on a déjà parlé. Will a extirpé des extraits de cette entrevue-là. On va d'abord écouter un extrait où Sylvain Guimond nous raconte pourquoi il était à New York cette journée-là.
Le 11 septembre, ben, j'étais en train de faire des évaluations d'équipe d'hockey. Dans mon voyage, j'avais à être à New York le 10, 11 et 12. Et j'étais là. Donc, on était censé de faire les évaluations dans les tours. Et ce qui est arrivé, c'est que les espaces des chambres d'hockey, parce qu'il y a deux arénas très près de là. Et les chambres étaient trop petites. Puis il y avait 68 joueurs au camp d'entraînement des Rangers. Donc, on nous a dit la veille quand on est arrivé, au lieu de s'installer à l'hôtel dans les tours, on va s'installer dans un hôtel en face du Madison Square Garden. Et les tests avaient lieu au Madison. Donc, quand c'est arrivé, c'était Alan Fleury qui est venu nous le dire, « Hey, il y a un avion qui a percuté une des tours. » Puis, sur le coup, on pensait qu'il était soit qu'il était chaud, mais il était 8h le matin, il était 8h. On a parti à rire, on pensait qu'il faisait une blague. Mais il est vraiment, il était blanc comme un drap. Puis on voyait qu'il n'y avait pas de blague. Là. Puis Sylvain Lefebvre était avec lui. Donc on s'est tout de suite dirigé vers un poste de télé où là, en direct, on a vu la deuxième tour être frappée. Et on a manqué d'électricité à ce moment-là, sur le coup. Donc le premier réflexe qu'on a eu, c'était de dire on va sortir de l'immeuble tout de suite. Puis quand on s'est dirigé pour sortir de l'immeuble, il y a les chiens qui rentraient dans l'immeuble avec des policiers pour savoir s'il n'y avait pas des explosifs où on était. Donc, les policiers nous ont dit, il faut rester ici. Mais j'ai dit, s'il y a des explosifs, je pense que j'aimerais mieux sortir. Et puis là, ça s'est passé que Glenn Setter est venu voir en nous disant, ben écoutez, on a de la nourriture et de l'eau pour 3 jours. Fait qu'on n'a pas de problème. Mais là, j'ai dit, on reste pas ici 3 jours. Et il n'y avait aucune façon de prendre nos cellulaires et de sortir de là. Donc, personne ne pouvait savoir ce qui se passait. Donc, ici au Canada, ma femme, tout le monde, ont cru qu'on était dans les tours. Donc, ma femme, du coup, a pensé qu'elle était rendue. Elle venait toucher son assurance, mais non.
11 septembre 2018, aujourd'hui, un lien avec cette journée du 11 septembre 2001. On écoute à l'instant un deuxième extrait de Sylvain Guimond, qui est psychologue sportif pour le Canadien. Il nous explique maintenant, c'est une vieille entrevue, là, c'est pas une entrevue des derniers jours, là. On a fouillé dans l'ordinateur. Il nous explique comment il a réussi à sortir de New York.
Nous, on n'a pas été capable de sortir de la ville. Le lendemain, on a essayé de louer une voiture. C'est toute une histoire. Ça nous a pris 36 heures de sortir. On s'est caché dans le fond d'un train. On est rentré dans la station, en bas du Madison Square Garden. C'est là que sont les trains. Et quand on est arrivé là, j'étais avec Gaétan Lefebvre, l'ancien soigneur du Canadien. Puis Gaétan, il est très débrouillard. Il vient de Pointe-Saint-Charles. Il dit, hey, qui a du cash? On s'est donné de l'argent en cash. Et lui a pris de l'argent, puis est allé voir un concierge. Il a dit, sors-nous d'ici. Je dis, avec un concierge, comment est-ce qu'on va sortir d'ici? Et le concierge nous a emmenés dans les sous-sols de la gare et il nous a cachés dans un train. On s'est couché à terre. On a attendu que le train parte. Et quand le train est parti, on a fait semblant qu'on avait nos billets. Et on s'est rendu jusqu'au New Jersey. Puis après ça, on a pris des trains comme ça, là, de façon clandestine, là, jusqu'à la frontière du Canada. Parce que c'était quasiment impossible d'acheter des billets. Parce qu'il y avait tellement de lignes d'attente. C'est des millions de personnes qui attendent de sortir de là. C'est arrivé. Tous les ponts ont été fermés. Tous les ponts étaient bloqués. Mais ce qui était intéressant, c'est ça, l'être humain. Dans les catastrophes, les gens deviennent de plus en plus humains. Donc, le 10 septembre, personne ne se parle sur l'île de Manhattan. Personne. Tout le monde fait leur propre affaire. C'est comme des étrangers qui passent d'un côté de l'autre, puis on se fout de tout le monde. Le 11, tout le monde s'aidait à traverser la rue. Tout le monde se parlait, tout le monde s'entraidait. C'était incroyable. La ville de New York était devenue humaine avec une catastrophe humaine.
Voilà, c'était des extraits d'un entretien de Sylvain Guimond en lien avec le 11 septembre 2001. Étant donné que nous sommes le 11 septembre 2018, on a cru bon revenir un peu sur cet entretien, quand même à caractère un peu sportif, malgré, parce que lui est dans le monde du sport, malgré la catastrophe qui a enlevé la vie à plusieurs milliers de personnes.